RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice, bonjour.
Salut Jean-Michel.
Nouvel opus dans lequel nous allons découvrir que peut-être nous avons un deuxième cerveau.
Où ça?
Justement, c'est ça qu'on veut savoir.
Un peu plus bas que l'autre, du côté de l'intestin sans doute, on a la chance d'être par téléphone effectivement avec le professeur Francisca Joly-Gomez, qui est donc professeur en nutrition à l'université de Paris 7, gastro-entérologue et nutritionniste à l'hôpital Beaujon, c'est à Clichy-la-Garenne. Elle est l'auteur en 2014 de l'ouvrage qui a fait vraiment parler de lui à l'époque, Intestin, notre deuxième cerveau, publié chez Marabout, plus récemment avec sa sœur, qui est chef cuisinière, Isabelle Gomez-Dubest. Elles ont publié toujours chez Marabout, Bien nourrir notre intestin, avec des choses très pratico-pratiques. On va se régaler.
Je pense aussi. Bonjour Francisca Joly.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin pour nous expliquer un petit peu en quoi un intestin peut être comparé à un cerveau.
Alors, je pense qu'on en a tous eu à un moment donné un peu conscience que notre intestin a un rôle majeur dans notre vie. Alors, ça dépend, on peut en avoir conscience tout simplement quand on est stressé. Tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai la boule au ventre, on sent l'intestin qui se contracte. Et en fait, il faut avoir conscience que quand l'intestin se contracte, ça fait fonctionner les neurones que l'on a dans l'intestin, puisque l'intestin est constitué de neurones tout au long du tube digestif. Et ces neurones vont envoyer les signaux nécessaires pour que le muscle de l'intestin se contracte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, ces neurones, ils ont une vie, on va dire, autonome, indépendante de notre cerveau, puisque on n'a pas besoin de dire tiens, je vais faire contracter mon intestin pour que les aliments se déplacent. Ça se fait tout seul, en fait, ça se contracte spontanément, donc on a un système nerveux autonome, mais il est aussi en communication et en dialogue avec notre cerveau, on va dire, principal, puisque les deux systèmes nerveux sont connectés. Donc on dit que l'intestin est notre deuxième cerveau parce que déjà il ressemble beaucoup à notre cerveau, celui auquel on pense toujours, hein, celui qui est dans notre tête, puisqu'il est constitué anatomiquement de choses qui ressemblent beaucoup à notre cerveau, avec ses neurones qui sont connectés entre eux et qui sont capables d'envoyer des signaux à notre intestin.
Mais il y a quand même beaucoup moins de neurones dans l'intestin que dans le cerveau.
Il y en a beaucoup moins. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment tout au long du tube digestif et que ces neurones permettent à l'intestin évidemment de se contracter. C'est comme un muscle, hein. Quand on veut bouger un bras, bah on va faire fonctionner les nerfs qui sont au niveau de notre bras par l'interaction avec les muscles. Mais ils ne font pas que ça, puisqu'ils sont capables d'envoyer ce qu'on appelle des neuromédiateurs, hein, comme l'acétylcholine, la sérotonine, qui peuvent donc avoir aussi des actions locales, mais à distance.
Et est-ce que on en a 200 millions à peu près, c'est ça, hein, on vous entend le dire parfois, 100 millions, 200 millions de neurones,
c'est à peu près... c'est difficile de savoir exactement combien on en a, mais oui, c'est de cet ordre-là, donc c'est quand même des quantités très importantes, et surtout, ils sont connectés entre eux, ils forment ce qu'on appelle des réseaux, donc des plexus, qui font que, en fait, on a besoin aussi qu'ils interagissent entre eux.
Alors si on devait un petit peu détailler ce qu'est l'intestin, mais alors pas du tout... de manière anatomique très précise, mais on parle parfois de flore intestinale, d'écosystème autour de tout ça. Les neurones de cet intestin ont besoin de cet environnement pour fonctionner?
Alors c'est ça qui fait un peu beaucoup parler depuis, je dirais, ces 10 dernières années. C'est tout ce qu'on a découvert et qu'on connaît mieux au sujet de ce qu'on appelle la flore intestinale. Alors avant, on appelait ça la flore. Alors la flore, ça fait penser à du végétal. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de microbiote. Alors pourquoi microbiote? Parce que le mot veut dire petit organisme vivant. Et donc en fait, notre tube digestif, donc dans la lumière en fait du tube digestif, il y a des bactéries. Alors pas que, il y a aussi des levures, des virus. Mais ce monde vivant, donc ce monde qui compose ce microbiote qu'on appelait flore intestinale, est absolument nécessaire pour que notre intestin fonctionne bien. Et c'est indispensable pour être en bonne santé Et donc la composition, la constitution de cette flore va permettre à notre intestin d'être en bonne santé. Et quand notre intestin est en bonne santé, c'est essentiel pour plein d'autres situations. Et il y a un vrai dialogue qui se fait entre ce microbiote, ce qu'il va produire, et le fonctionnement même de l'intestin et donc des neurones. Donc en fait, c'est un écosystème qui permet à l'ensemble de fonctionner de manière correcte. Donc si on veut aussi que notre système nerveux intestinal fonctionne correctement, on a aussi besoin de ce microbiote en bonne santé.
Alors vous parliez de bactéries, il y en aurait à peu près 100 000 milliards. Et pour que nos auditeurs se fassent une idée un peu plus concrète, toutes ces bactéries pèseraient environ 2 kilos. C'est énorme,
incroyable.
Oui, alors ça, c'est plutôt rassurant quand on se pèse le matin et qu'on se dit, bah tiens, finalement, j'ai 2 kilos de trop.
Bah, je vais perdre 100 milliards de bactéries, je vais maigrir un peu, oui.
Bah voilà, on peut toujours se dire, dans ce poids, il y a aussi 2 kilos de bactéries. C'est en effet, c'est phénoménal, en fait. On pense qu'on a jusqu'à 100 000 milliards de bactéries, ce qui constitue, en fait, quelque chose de très important. Et parfois même, on pourrait se dire, mais finalement, on est presque plus composé d'organismes vivants qui ne sont pas nous que nous-mêmes.
Oui.
Puisque quand on regarde même l'ADN, donc ce qui constitue en fait l'ADN de ces bactéries, bah on en a 150 fois plus que de notre propre ADN. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive finalement à vivre et à tolérer ces organismes vivants qui ne sont pas au départ nous-mêmes, et on vit parfaitement en tolérance et en adéquation avec ces organismes vivants qui sont en nous. Et ça va même au-delà, puisqu'on a besoin de ces organismes vivants pour être en bonne santé.
Ça, c'est intéressant.
Mais parfois,
Pardonnez-moi, mais je vais dans votre sens. C'est intéressant de savoir effectivement qu'il y a pas des petites bêtes, hein, mais combien ça mesure justement ce qu'on appelle une bactérie avec des milliards d'êtres vivants qui se baladent en nous et qui nous composent. Ça mesure. On les voit avec un microscope ou c'est plus complexe?
Alors, si on veut vraiment les voir, par exemple, on va prendre des microscopes électroniques. Donc, on a besoin de grossir énormément.
D'accord.
Par exemple, il arrive parfois qu'on soit obligé de faire ce qu'on appelle une coloscopie. C'est-à-dire un examen où avec une caméra, on va regarder à l'intérieur du tube digestif, on ne voit pas du tout les bactéries.
D'accord.
On ne les voit pas. Donc, c'est impossible à voir. Alors avant, si on voulait savoir si, par exemple, il y avait une infection, parce que parfois, en fait, on peut avoir des bactéries pathogènes, c'est-à-dire qui sont négatives ou méchantes pour notre santé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On va faire un examen à partir des selles et on va mettre en culture pour qu'il y ait de plus en plus de bactéries, donc dans des milieux particuliers. Et donc, on va analyser les bactéries. C'est ce qu'on appelle la coproculture. Mais ce qui a révolutionné, en fait, nos connaissances, c'est que aujourd'hui, on s'est allé jusqu'à analyser le type de bactéries, mais en allant voir même leur ADN. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on avait des espèces bactériennes très différentes et que finalement, chacun, de manière individuelle, on a un microbiote différent.
Avec l'importance de la diversité, hein, je crois. Y compris, finalement, des aliments qu'on ingère pour favoriser ce milieu, cet écosystème interne. La question de diversité est importante dans l'intestin?
C'est essentiel. Et là, vous venez de dire quelque chose de majeur. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est dit, il faut qu'on détruise ce qui est mauvais. La mauvaise cellule, la mauvaise bactérie, faut être extrêmement propre. Et donc, on était dans une réflexion de détruisons ce qui est mauvais. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte avec le microbiote, c'est que, en fait, plutôt que de détruire, peut-être qu'il faut amener de la diversité. Et pour vous donner un exemple un peu plus imagé, faut imaginer, par exemple, vous avez un immense jardin. Lorsque vous avez un jardin avec uniquement la même plante ou la même fleur, ce jardin, cette terre va s'appauvrir. Donc, parfois, le fait d'amener de la diversité, d'amener plein de fleurs différentes, des plantes différentes, des arbres différents, fait que votre sol va s'enrichir et on va gagner, en fait, même en force et en puissance. Donc, aujourd'hui, Ce que nous apprend le microbiote, c'est que les personnes qui ont une diversité, ça veut dire finalement des bactéries différentes, des espèces différentes, est plutôt une garantie de bonne santé. Et dans beaucoup de maladies chroniques, lorsqu'on analyse le microbiote de ces patients, on voit qu'il y a une diminution de la diversité. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de bactéries, mais qu'il y a moins d'espèces différentes.
Et à partir de quel moment et comment apparaissent ces bactéries? Est-ce que quand on naît, elles sont déjà là?
Alors ça, c'est assez extraordinaire, puisque en fait, ça va commencer en fait dès les premières secondes de la naissance. Et en fait, le bébé va se coloniser immédiatement, il va commencer à se coloniser par les bactéries qu'il va rencontrer. Et les premières bactéries qu'il va rencontrer, c'est lors de l'accouchement, par le périnée en fait de la maman, et donc il va immédiatement commencer sa colonisation. Et puis après, vous avez l'allaitement, en fait... l'allaitement, ou même lorsqu'on met le bébé au sein, où il n'y a pas encore de lait, il y a le colostrum, en fait, c'est pas stérile. C'est déjà aussi un autre contact avec le monde microbiologique. Donc, dès la naissance, le bébé va commencer à se coloniser, et sur les trois premières années de vie, il va commencer par l'alimentation, la diversification alimentaire, et par son environnement et son entourage, à constituer finalement, son empreinte génétique qui va le constituer après au cours de la vie, puisqu'il va constituer son propre microbiote et qu'on dit que, on va dire vers l'âge de 3 ans, on commence à avoir le microbiote qui sera celui qui nous représente au cours de la vie. Donc tout se joue, je dirais, entre la naissance et 3 ans.
Donc en fait, varier l'alimentation d'un enfant jusqu'à 3 ans, après aussi bien sûr, c'est un gage de presque de bonne santé pour sa vie adulte.
Alors voilà, il y a des éléments qui sont essentiels. Ça va être lui amener de la diversité dans l'alimentation. Et en fait, les bactéries intestinales, ce qu'elles aiment particulièrement, c'est les fibres par exemple. Les fibres, en fait, ne sont pas digérées, absorbées au niveau de la partie haute de l'intestin, ce qu'on appelle l'intestin grêle. Donc, ça arrive dans le côlon. Et donc là, les bactéries vont s'en nourrir et on va voir comme ça apparaître plein d'espèces différentes. Donc, on a besoin que nos enfants, lorsque la diversification alimentaire se fait, puissent connaître, en fait, les joies d'une alimentation qui comporte des fruits, des légumes, diversifié pour que ce microbiote, finalement, il soit lui-même diversifié. Faut aussi essayer, finalement, un peu d'éliminer ce qui pourrait tuer ces bactéries. Ce qui pourrait les tuer, de la même manière qu'on parle de microbiote, dans le mot biote, il y a vie, donc c'est les antibiotiques. Et donc, la période de la petite enfance, il faut qu'on donne les antibiotiques que si vraiment il y en a absolument besoin. Donc éviter les antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire. Et donner, lorsqu'on donne des antibiotiques à un enfant, de manière systématique, des probiotiques pour éviter que ça détruise trop le microbiote à ce moment-là.
Oui, il y a la célèbre ultra-levure. Ou alors les remèdes de grand-mère, c'était le yaourt.
Les yaourts, ça fait partie en effet des éléments qui peuvent être intéressants. Mais oui, vous avez les probiotiques comme l'ultra-levure et d'autres aussi qui sont recommandés, notamment chez l'enfant lors de la prise antibiotique.
Je vous propose une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après Francisca Joly. Voici Ugel ou Mediterraneo.
Secoli di storia, proveti e poderi, quello che ci ferma, c'è un'estate di fuoco, che freddo ne teme, il Mediterraneo. sponde, i paesi sono nudi e ferite profonde, la noce inti di mure, i sogni come speme, ci un'estate di Gesù, da sotto a qualche porta, il lume di Derrano. Ci sono anime antiche, morti sotto ai bomba, in due pioli, a prima di Agulon. Dante, che pare un inferno, c'è un'estate di fuoco che fretone teme, il lume di Darà.
Il Mediterraneo.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
Et nous parlons de notre deuxième cerveau avec Francis Cajoli, auteur de Intestin, notre deuxième cerveau chez Marabout. Alors, est-ce que ce cerveau, ce second cerveau, peut avoir des maladies comme notre cerveau premier, si j'ose dire?
Alors, on se rend compte qu'en fait, finalement, il y a plusieurs aspects qui sont très intéressants. Alors évidemment, moi, je suis gastro-entérologue de formation, donc des maladies propres de l'intestin, comme des maladies inflammatoires, la gastro-entérite, l'ulcère, tout ça, c'est des maladies qui sont liées à l'intestin. Donc on se dit, l'intestin ne fonctionne pas normalement, ou il y a un problème immunitaire et il va y avoir une cascade inflammatoire et, l'intestin peut être malade comme tout autre organe. Mais ce qui en fait sa complexité, c'est que du fait de ce système aussi nerveux au sein de l'intestin avec ses neurones et cette relation extrêmement complexe et ce dialogue qui se fait entre les bactéries, la paroi de l'intestin, les neurones, tout le système immunitaire qui est dans l'intestin, on voit que finalement, ça peut aussi entraîner des maladies ou être un des maillons importants pour comprendre des maladies qui ne sont pas forcément des maladies intestinales. Et donc, on peut avoir des maladies, mais qui semblent très très loin en fait de l'intestin, comme des maladies neurologiques, et notamment la maladie de Parkinson. On va se dire, mais quel est le rapport, la maladie de Parkinson et l'intestin? Donc la maladie de Parkinson, on voit bien, c'est une maladie qui touche en fait le système nerveux central des personnes et à un moment donné, on va avoir du mal à marcher, à se mouvoir, il y a un tremblement, il y a vraiment un ralentissement moteur global. Mais chez ces patients, en fait, quand on regarde bien l'ensemble, ils n'ont pas que ça. Ils ont très souvent aussi des troubles digestifs plus ou moins sévères, comme une constipation, donc comme si l'intestin lui-même se ralentit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des chercheurs, notamment des chercheurs de l'équipe de Nantes, avec Michel Nonlist, qui a discuté avec les neurologues, les gastro-entérologues, et il a étudié les neurones de l'intestin. Et donc, il a vu que ces neurones de l'intestin, lorsqu'on les étudie vraiment de manière très rapprochée, ils ont les mêmes anomalies que les neurones de notre cerveau. Donc, moi, je dis, finalement, ces patients qui souffrent de maladie de Parkinson, qui ont des troubles digestifs, ils ont le Parkinson de l'intestin.
Et est-ce qu'il y a même... Vous allez faire peur à tout le monde. C'est pas parce qu'on est constipé qu'on a Parkinson.
Pas du tout.
Heureusement.
Et c'est pas parce qu'on est constipé qu'on a forcément une maladie neurologique, parce que la constipation, ça va au-delà. Ce n'est pas que, on va dire, les neurones de notre intestin qui ne fonctionnent pas, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question de. Ce chercheur le dit très joliment. Il dit peut-être que l'intestin, c'est un peu une fenêtre. Vous voyez, qui s'ouvre vers notre cerveau et que l'intestin pourrait nous aider à comprendre aussi comment certaines maladies neurologiques peuvent apparaître et peuvent fonctionner. Donc, on a en effet donc des anomalies, des déséquilibres au niveau de l'intestin que l'on retrouve dans des maladies donc qui ne sont pas au départ des maladies intestinale.
Et est-ce que pour le coup, il y a un côté chronologique intéressant à aller voir par biopsie intestinale, par exemple, lors d'une coloscopie, ce qui se passe du côté des neurones de l'intestin? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait voir qu'ils dégénèrent un peu plus tôt que ceux du cerveau dans le cas de Parkinson? Est-ce qu'il y a le côté un peu avant pour l'intestin?
Ça, c'est une très importante question qui se pose aujourd'hui. C'est en effet, est-ce que finalement ces anomalies des neurones de l'intestin ne précéderaient même pas justement la maladie, on va dire, plus générale. Donc l'avenir, ça sera peut-être ça. Ça sera de faire des diagnostics précoces en faisant des biopsies intestinales qui sont beaucoup plus faciles à réaliser, évidemment, que on comprend bien qu'une biopsie du cerveau, c'est pas quelque chose que l'on fait fréquemment. On le fait pas en routine, on va le faire pour certaines conditions, mais sûrement pas pour la maladie de Parkinson. Mais aujourd'hui, l'analyse des neurones, comme je vous le dis, comme l'a fait par exemple l'équipe de Nantes, est possible à faire plutôt en recherche. Mais comme la recherche va très vite et que la technologie va vite, on peut espérer que ce type d'analyse puisse être réalisé dans les années à venir, justement, on va dire en routine, pour faire des diagnostics plus précoces. Parce que l'on sait aussi que plus les diagnostics dans ce type de maladie, plus les diagnostics sont faits précocement, plus on a de chances d'avoir des traitements actifs.
Alors, vous parliez de Parkinson, il y a une autre maladie qui est la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'elle aussi est concernée par cette évolution des neurones?
Alors là, on a beaucoup moins de choses. Donc je pense que dans la maladie d'Alzheimer, on n'est pas du tout dans le même type d'anomalie. Par contre, il y a des questions qui se posent, par exemple, sur certaines formes de dépression, certains troubles anxieux. Donc dans des maladies, on va dire, neuropsychiatriques, où on voit qu'il peut y avoir des déséquilibres de ce microbiote intestinal dont on parlait tout à l'heure. Et y a des recherches aussi qui se font sur est-ce que certains patients qui répondent ou non à un traitement, est-ce que cette réponse ne serait pas liée justement à un microbiote différent?
Donc, Et là, juste, pardonnez-moi, mais de la même manière, je vais dans votre sens, mais pour bien comprendre concrètement ce que vous nous dites, ça veut dire que si on peut avoir un trouble de l'humeur, une maladie, je dirais, autre que celle du ventre, par exemple, une maladie placée bien plus haut au niveau de notre comportement, est-ce que c'est parce qu'on est déséquilibré au niveau de notre microbiote ou est-ce que c'est parce qu'on a une maladie à l'intérieur de cet intestin? Ça peut être juste une question de nourriture qui pourrait régler, si tout est bien calibré, le problème, par exemple, du trouble de l'humeur, ou c'est plus complexe, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et voilà, ça dégénère, il y a une maladie qui s'installe.
Alors le problème, c'est qu'en effet, ce qu'on a du mal à savoir, c'est est-ce que, on va dire, le trouble de l'humeur ou la maladie, on va dire, générale ou centrale, est-ce qu'elle est liée à un déséquilibre du microbiote ou est-ce que c'est parce qu'on a une maladie qu'il y a un déséquilibre du microbiote qui va lui-même participer à. Donc c'est probablement beaucoup plus complexe en effet et c'est toujours très difficile de savoir est-ce que ça vient de la maladie ou est-ce que ça vient du microbiote. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple il y a des expériences qui nous permettent d'essayer de mieux comprendre. On arrive à faire naître des animaux, des petits rats, sans microbiote. Donc on arrive à les faire naître de manière stérile. Et donc ce qu'on peut regarder, c'est lorsqu'on va prendre le microbiote de quelqu'un qui porte une maladie, de voir est-ce que ce microbiote qu'on va implanter dans ce petit animal qui est né sans microbiote, bah, est-ce que ça induit la maladie, pour voir s'il y a un effet microbiote réel. Et donc c'est ce qui a été fait par exemple pour l'obésité, puisqu'on sait que il y a l'obésité dans chez les patients qui souffrent d'obésité, on a une diminution de la diversité du microbiote avec un microbiote anormal. Et ben en fait, des chercheurs ont regardé si le fait d'implanter le microbiote d'un sujet qui souffre d'obésité fait que ben, finalement ce rat va devenir obèse. Ben, c'est le cas. Donc on voit qu'il y a quand même des signaux qui sont portés par ce microbiote et qui peuvent, en tout cas, induire de la maladie. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est... le microbiote, c'est pas la cause de tous nos maux, mais c'est un maillon. C'est un maillon important qui fait qu'à un moment donné, il y a sûrement une boucle, vous voyez, un espèce de cercle vicieux qui se met en place.
Merci Francisca Joly. En tout cas, j'espère que nos auditeurs vont s'intéresser encore plus à leur microbiote et suivre vos recherches notamment.
Et puis au Parc Galéa en printemps,
on aura la chance de la voir. Et au printemps, on vous retrouvera au Parc Galéa. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Intestin, notre deuxième cerveau. C'est aux éditions Marabout. Merci Fabrice. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Je vais aller nourrir mon microbiote.
Moi aussi.